Bonjour à toutes et à tous, ainsi qu'à ceux qui sont sur Zoom. Je suis content de vous retrouver en présentiel et Damaris et moi, nous vous remercions pour vos prières. Globalement, la situation sanitaire tend à s'améliorer à l'Institut et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Nous démarrons aujourd'hui une courte série de prédications sur le livre de Ruth. Nous sommes toujours dans la continuité de notre parcours biblique allant de la Genèse à l'Apocalypse. Et après toute la période qui a suivi la sortie d'Égypte avec Moïse, les 40 années dans le désert, le peuple d'Israël est enfin parvenu en terre promise, dans le pays que Dieu avait promis autrefois à Abraham. C'est Josué, le successeur de Moïse, qui a mené la conquête du pays. En effet, ce pays était déjà habité par des peuples qui adoraient d'autres divinités. Dieu avait décidé de les livrer, de livrer ces peuples entre les mains des Israélites. Et la semaine passée, dans les groupes de maison, vous avez vu dans le livre des Juges que la conquête était restée incomplète. Les habitants du pays ont finalement continué à vivre avec les Israélites, ce qui a contribué au déclin moral et spirituel du peuple de Dieu. Eux qui devaient adorer l'Éternel adorent désormais d'autres dieux sous l'influence de ces peuples. Et c'est dans cette époque troublée où chacun faisait ce qu'il voulait que l'histoire de Ruth se déroule. Pourquoi avons-nous cette histoire dans la Bible ? La fin du livre nous révèle qu'il est question, en fait, des ancêtres du roi David. Les personnages qui sont dans ce livre sont les ancêtres du roi David. Il est probable que l'auteur écrit cette histoire au temps du règne de David, aux alentours de 1000 avant Jésus-Christ. Et une des leçons de ce récit oriente notre regard vers l'action de Dieu, vers l'action de Dieu dans les événements ordinaires de la vie. David n'est pas devenu roi par hasard. Bien avant lui, Dieu a pris soin de cette petite famille de la tribu de Juda. Et si cette histoire se termine bien, eh bien, elle démarre aussi d'une autre manière, avec des personnages marqués par le deuil. 3 décès dans une famille israélite, 3 veuves. Le narrateur souligne la souffrance de celle qui se considère comme la plus malheureuse, et à juste titre, c'est Naomi. Naomi qui a perdu ceux qui lui étaient le plus proches. Et que peut bien nous apprendre ce premier chapitre ? J'emprunte à l'un des commentateurs l'idée que les personnages traversent ici une crise. Et effectivement, en temps de crise, se tourner vers Dieu est toujours pour nous la meilleure option. C'est le message que nous devons retenir de ce texte, qu'en temps de crise, se tourner vers Dieu est toujours pour nous la meilleure option. Et pour aborder ce texte, je vous propose de le voir sous 3 angles, avec 3 personnages. Premièrement, Naomi, une femme devenue amère. Si l'histoire commence avec Elimelech, le mari de Naomi, eh bien très vite, c'est Naomi qui occupe le plus de place dans ce récit, dans ce premier chapitre. Alors, nous pouvons faire 3 remarques concernant Naomi. D'abord, le plus évident, c'est que c'est une femme qui a beaucoup perdu. Les 5 premiers versets résument cette situation dramatique. Elle perd d'abord son mari, Elimelech, puis ses 2 fils, Mahlon et Kilion. Elle se retrouve donc veuve et sans enfant. Et ces drames ont suscité chez elle de l'amertume. Dans le dictionnaire, nous trouvons cette définition de l'amertume, un sentiment qui est mêlé de découragement et de rancœur éprouvé à la suite d'un échec. Voilà ce qu'est l'amertume, un sentiment mêlé de découragement et de rancœur à la suite d'un échec. C'est le sentiment dominant chez cette femme, chez Naomi. Et regardez comment elle décrit sa situation, verset 13. « Je suis dans une grande amertume parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Et au verset 20, « Ne m'appelez pas Naomi, dit-elle aux femmes de Bethléem. « Appelez-moi Mara », ce qui signifie « amer », car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. La vie de Naomi a été difficile jusque-là. Est-ce que vous connaissez dans votre entourage des personnes rongées par l'amertume, parce qu'elles ont connu toutes sortes d'épreuves dans leur vie? Peut-être ressentez-vous aussi de l'amertume par rapport à certaines situations qui ont mal fini, par rapport à des blessures qui n'ont pas été guéries. Deuxièmement, en dépit de sa situation difficile, Naomi manifeste de la bienveillance à l'égard de ses deux belles filles. Ce qu'elle leur souhaite, c'est un meilleur avenir. Elle veut leur bien. Naomi est une belle-mère bien intentionnée. Et elle prie que l'Éternel, le Dieu d'Israël, leur fasse du bien à elles qui sont moabites. Regardez ce qu'elle dit au verset 8. « Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Les belles filles, Orpa et Ruth, sont suffisamment jeunes pour se remarier, pour refaire leur vie. Et Naomi use d'arguments pour leur montrer qu'il n'y a plus rien à attendre d'elles, qu'elle n'a plus rien à leur offrir. « Retournez chez vous, mes filles, » insiste-t-elle. « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendriez-vous avec moi? Suis-je encore en état d'avoir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais « j'ai de l'espérance », même si cette nuit j'étais avec un homme et que je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Orpa a compris. Et au milieu des larmes, elle s'en va. Elle embrasse sa belle-mère. Mais Ruth, comme nous le verrons un peu plus tard, ne compte en aucun cas abandonner sa belle-mère. Et puis la troisième remarque que nous pouvons faire concernant Naomi, c'est qu'elle a une foi, mais une foi plutôt ambiguë. Visiblement, elle croit en l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Tout-Puissant, comme elle l'appelle. Et à l'instant, nous avons vu qu'elle prononce des paroles de bénédiction pour ses belles filles, en mentionnant le nom de Dieu. Et même juste avant, le narrateur apporte la raison pour laquelle Naomi décide de revenir en Israël. Regardez le verset 6. Pourquoi retourne-t-elle en Israël? En effet, elle y a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Apparemment, la situation s'est améliorée en Israël. La famine a cessé. Et Naomi reconnaît que c'est Dieu qui est intervenu en faveur de son peuple. Donc, en revenant dans son pays, en revenant vers son peuple, elle cherche du secours auprès de Dieu. Elle montre qu'en temps de crise, il vaut mieux se tourner vers Dieu. Donc, d'un côté, elle croit en l'Éternel. Et de l'autre, à ses yeux, Dieu s'est dressé contre elle. Elle interprète tout ce qui lui est arrivé comme des interventions de Dieu contre elle, comme peut-être un jugement de Dieu. Regardez encore comment elle parle de ses épreuves. « L'Éternel est intervenu contre moi », verset 13. Verset 20, « Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume ». Verset 21, « L'Éternel me ramène les mains vides. L'Éternel s'est prononcé contre moi. Le Tout-Puissant a provoqué mon malheur. » Dans ces derniers versets, Naomi s'en prend publiquement à Dieu, devant les femmes de Bethléem. « C'est Dieu qui a fait ça, contre moi. » Elle l'accuse d'être l'auteur de tous ses malheurs. Et c'est l'amertume, ce sentiment négatif, c'est l'amertume qui anime son cœur. Mais a-t-elle raison d'accuser Dieu? A-t-elle raison d'accuser Dieu? Certes, C'est bien Dieu qui lui a repris son mari et ses deux fils. Mais peut-elle faire des reproches à Dieu ? Naomi a l'impression que Dieu s'est dressé contre elle. Mais est-ce vrai ? Dieu traite-t-il Naomi en ennemi ? De même, pouvons-nous dire cela de Dieu en temps de crise ? Qu'il s'est prononcé contre nous, qu'il a provoqué notre malheur. Est-ce que dans nos temps d'épreuve, nous pouvons dire ces mêmes paroles ? Je ne le crois pas. Je ne le crois pas parce que la Bible nous enseigne autre chose, une vérité fondamentale pour celles et ceux qui croient en Jésus-Christ. Et cette vérité, la voici, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est ce que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Rome. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont unis à Jésus-Christ. C'est pourquoi Dieu fait concourir à toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et dans toute chose, comprenez également les épreuves. Dieu fait concourir à toute chose au bien de ceux qu'il aime. Et si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Question rhétorique. Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous ? Ce n'est sûrement pas Dieu qui se lèvera contre nous. Si nous sommes en Christ, nos pires épreuves ne signifient pas que Dieu est contre nous. Si nous sommes en Christ, nos pires épreuves que nous pouvons avoir dans la vie ne signifient pas que Dieu est contre nous. Grâce à Christ, par qui nous sommes réconciliés avec Dieu, Dieu est définitivement pour nous. Grâce à Christ. Et cela ne veut pas dire non plus, parce qu'il faudrait peut-être un petit peu équilibrer les choses, cela ne veut pas dire non plus que Dieu ne nous corrige plus. Mais s'il le fait, il le fait comme un père le fait avec son enfant, c'est-à-dire pour son bien. Si Dieu nous corrige en tant qu'enfant de Dieu, s'il nous corrige, il le fait comme un père le fait avec son enfant. Nous venons d'évoquer le portrait de Naomi en soulignant qu'elle avait effectivement beaucoup perdu, qu'elle manifeste malgré tout de la bienveillance envers ses belles-filles et que sa foi est en demi-teinte à cause de l'amertume qu'elle ressent. Et si Naomi prend beaucoup de place dans ce premier chapitre, nous ne pouvons pas manquer de parler de sa belle-fille, Ruth. Et c'est ce que je vous propose de voir dans un deuxième temps. Ruth, une femme particulièrement déterminée. Que savons-nous de Ruth ? Elle a épousé l'un des fils de Naomi, alors que la famille israélite était installée en Moab. Et je vous montre simplement une carte pour situer un petit peu les choses. Donc nous nous situons plutôt au sud du pays, si je zoome un petit peu. Donc Moab se situe de l'autre côté de la mer Morte ou de la mer Salée. Et puis vous avez Bethléem un peu plus haut. Et donc vous avez vu que la famille s'est déplacée de Bethléem jusqu'en Moab, sans doute en traversant le Jourdain qui est un peu plus haut. Et puis là, Naomi ainsi que Ruth sont sur le chemin du retour vers Bethléem. Ruth est une Moabite, une étrangère pour les Israélites. Et un certain nombre de textes antérieurs à celui que nous étudions cet après-midi, un certain nombre de textes nous rapportent les relations compliquées qu'il y a entre Israël d'un côté et Moab de l'autre. Et le plus souvent, ce sont des relations conflictuelles, des peuples qui sont plutôt ennemis. Et Dieu avait dit dans la loi que les Moabites n'avaient pas leur place dans son peuple. Je vous renvoie au texte de Deutéronome, chapitre 23, versets 4 à 7. Le verset 4, « L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la dixième génération et ce pour toujours. » Et puis un peu plus loin au verset 7, « Tu ne rechercheras ni leur prospérité, ni leur bien-être, tant que tu vivras, et ce pour toujours. » Et pour quelle raison Dieu dit cela ? Eh bien, la raison est au verset 5, parce que notamment ces peuples ne sont pas venus en aide au peuple d'Israël au moment où ils étaient sortis d'Égypte, où ils avaient besoin d'aide. Parce qu'ils ne sont pas venus à votre rencontre avec du pain et de l'eau, sur le chemin de votre sortie d'Égypte. Et puis, il y a encore d'autres épisodes. Mais déjà, Dieu d'emblée ici dit, les hommes qui sont d'origine ammonite ou moabite ne devront pas entrer dans l'assemblée de l'Éternel. Mais Dieu fait grâce aussi. Et c'est pour ça que Ruth est dans cette histoire. Au temps des juges, on apprend également que les Moabites ont dominé sur les Israélites durant 18 ans. Donc, peut-être plusieurs années avant cette histoire, les Moabites dominaient sur les Israélites pendant 18 ans. Mais Dieu a envoyé un libérateur pour délivrer son peuple. C'est ce que vous lisez dans Juges, chapitre 3. Et vous aurez l'occasion d'étudier ce texte en groupe de maison. Malgré tout ce contexte un peu conflictuel dans le passé, eh bien, des femmes moabites ont intégré une famille israélite. Et ces femmes sont en fait plutôt remarquables, et particulièrement Ruth. Naomi dit de ses belles filles qu'elles ont fait preuve de bonté à l'égard de sa famille. Regardez le verset 8 de nouveau. « Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » Elles ont fait preuve de bonté. Et Naomi demande à ce que l'Éternel fasse preuve de bonté aussi envers elles. Elles ont agi, elles qui sont étrangères, elles ont agi comme Dieu l'attend de son peuple. N'est-ce pas à Israël que Dieu dit d'aimer son prochain comme soi-même ? Et cela inclut la bonté, la bienveillance, le souci de l'autre. Et Ruth a ces qualités. La bonté, la bienveillance, le souci de l'autre. Et elle va continuer à les manifester envers sa belle-mère qu'elle aime. Et c'est ce qu'il faut souligner à présent. Comme nous l'avons vu en chemin vers Bethléem, Naomi dit à ses belles-filles de ne pas la suivre, parce que leur avenir sera meilleur si elles restent en pays de Moab. Mais à deux reprises, Ruth montre qu'elle est bien décidée à accompagner coûte que coûte sa belle-mère là où elle ira. Relisons encore ces versets 16 et 17. Qu'est-ce que Ruth dit à sa belle-mère, ce qui est assez incroyable. « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Je crois bien que beaucoup de belles-mères aimeraient entendre de telles paroles. Quelle déclaration de la part de Ruth. Quelle parole forte. Vous notez qu'elle prend ici un engagement à vie jusqu'à ce que la mort les sépare. Alors, c'est juste une parenthèse, mais il paraît que ces versets sont parfois choisis comme texte de mariage. Si vous l'avez fait autrefois pour votre mariage, c'est déjà trop tard et je n'ai rien à dire. Mais pour ceux qui projettent de se marier, ne choisissez pas ce texte à cause de son contexte. Parce que ici, c'est une femme qui s'adresse à sa belle-mère. Mais le plus remarquable, ce sont ces paroles. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Ruth, la Moabite, est prête à quitter son pays, ses parents, son peuple et ses dieux pour intégrer un nouveau peuple et obéir au Dieu d'Israël. Si un étranger arrivait en terre d'Israël, ce dernier était soumis aux lois que Dieu a données à son peuple. Il devait vivre comme n'importe quel Israélite. Et Ruth renonce ici définitivement à sa vie passée. Et cela ressemble à une conversion. Mais je pense qu'il ne faut pas aller trop vite. Après tout, Ruth ne connaît l'Éternel qu'à travers la foi de sa belle famille. Mais contrairement à Naomi qui exprime son amertume, Ruth, qui est pourtant veuve et atteinte par le malheur, ne se lamente pas sur son sort. En tout cas, le narrateur n'en dit rien. Et malgré ce que Naomi dit au sujet de l'Éternel, le fait qu'il est intervenu contre elle, Ruth est prête à suivre ce Dieu. Et contrairement à sa belle-sœur qui est retournée vers son peuple et vers ses dieux, Ruth se tourne vers le peuple et le Dieu d'Israël. Ainsi, par son exemple, elle prouve qu'en temps de crise, se tourner vers Dieu est la meilleure option. Et la suite de l'histoire va montrer qu'elle a fait le bon choix et que Dieu va effectivement la bénir. Est-ce que nous réagissons ainsi quand les difficultés se multiplient au quotidien? Je suis conscient que nous parlons beaucoup de la crise sanitaire et vous avez les uns les autres d'autres soucis qui s'ajoutent à cela. Comment faites-vous face à toutes vos épreuves, face à toutes vos difficultés? Comment faites-vous? Peut-être que vous priez pour vos difficultés ou que vous demandez aux autres de prier pour vous. Peut-être que vous lisez la Bible à la recherche d'une réponse à vos questions. Peut-être que vous demandez un conseil à un frère ou à une sœur en Christ. Et oui, je crois que ce sont de bonnes démarches. Mais par-dessus tout, dans nos épreuves, nous avons besoin de foi. Demandons à Dieu la foi nécessaire, une confiance en lui à toute épreuve. Et lorsque c'est difficile, nous avons particulièrement besoin de foi. Nous avons particulièrement besoin de faire confiance à Dieu. Et assurément, Ruth n'a pas produit cette foi d'elle-même. Quelque chose en Dieu lui a donné une raison de croire, de le suivre, et elle s'est mise en mouvement, au point de ne plus quitter sa belle-mère. Oui, nous avons besoin que Dieu nous accorde la foi dans nos épreuves. S'il te plaît, Seigneur, augmente ma confiance en toi. S'il te plaît, Seigneur, accorde-moi la foi s'il m'en manque dans l'épreuve que je suis en train de vivre, dans ce contexte de pandémie. Si je manque de confiance, Seigneur, accorde-moi plus de foi. Nous avons parlé de Naomi. Nous avons parlé de Ruth. Mais qu'en est-il du troisième personnage? Je veux bien sûr parler de Dieu. L'Éternel, un Dieu souverain qui fait grâce. Vous avez peut-être déjà entendu parler du caméo au cinéma. Ça vous dit quelque chose ce terme? Caméo? Le caméo désigne, en général, l'apparition brève, discrète, d'un acteur célèbre ou du réalisateur lui-même dans son propre film. Et pour l'œil averti, c'est presque un jeu de repérer ce genre de détails dans un film. Et si vous avez vu notamment un des films Marvel, eh bien, et que vous savez aussi à quoi ressemble Stan Lee, eh bien, vous pouvez être sûr de retrouver ce producteur dans un petit rôle au milieu des autres personnages. C'est ce qu'on appelle un caméo. Il me semble que dans le récit de Ruth, la présence de Dieu est tout aussi discrète. Il dirige l'ensemble du scénario et de temps en temps, l'auteur biblique le mentionne, comme pour nous montrer que Dieu est tout de même là dans cette histoire. Une sorte de caméo. Par exemple, au verset 6, le narrateur rapporte que Naomi a entendu parler de l'intervention de Dieu en faveur de son peuple. Encore une fois, pourquoi Naomi quitte le pays de Moab? Eh bien, elle y a appris que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple et lui avait donné du pain. Et j'aimerais simplement faire une parenthèse ici en faisant un petit peu d'hébreu avec vous. Parce qu'il y a un jeu de mots qui n'est pas perceptible en français, mais qui est très clair en hébreu. En hébreu, le mot pain se dit lehem, comme dans Bethlehem, qui signifie la maison du pain. Au début du chapitre, nous apprenons que la famine a frappé Bethléem, ce qui est un comble pour la maison du pain. Et ici, le narrateur nous indique que Dieu, dans sa grâce, a donné du pain à son peuple. Voilà, c'était la petite parenthèse d'hébreu. Le narrateur nous indique que Dieu, dans sa grâce, est intervenu en faveur de son peuple. Et l'accent est mis sur ce que Dieu a fait. Et ça apparaît ici au verset 6. Malgré l'infidélité de son peuple, la déchéance de son peuple, Dieu a eu compassion de lui et a mis fin à la famine. Peut-être qu'il y a eu un retour à Dieu, on ne le sait pas. En tout cas, la vie en Juda est de nouveau possible. Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Notre Dieu est un Dieu de grâce. Alors que les êtres humains ne méritent pas du tout sa compassion, Dieu fait quand même compassion. Dieu a quand même compassion. Il sait bien que les hommes dépendent de lui pour la nourriture, par exemple ici. Et ce qui est étonnant dans le livre de Ruth, c'est que le narrateur ne mentionne l'Éternel qu'à deux reprises. Ici, au verset 6, et à la fin du livre, au chapitre 4, verset 13, pour dire que Dieu a permis à Ruth de tomber enceinte. Le narrateur mentionne seulement deux fois l'Éternel. Et dans tout le reste du livre, ce sont les personnages qui parlent de Dieu, qui évoquent son nom. Quelle discrétion! Et comme l'a décrit un commentateur, Dieu agit discrètement dans l'histoire de Naomi et de Ruth. Sa main conduit les événements, mais comme en coulisses. Et assurément, c'est le plan de Dieu qui se réalise dans cette histoire. Et cela nous rappelle que dans notre vie de tous les jours, Dieu est aussi à l'œuvre pour accomplir son plan, même si nous ne le remarquons pas. Sa présence peut être discrète, mais il est là. Et il conduit le cours de notre vie. Si nous restons attentifs, nous verrons qu'il manifeste sa grâce. Cette faveur que nous, pécheurs, nous ne méritons pas. Nous constatons alors que plusieurs fois déjà dans notre vie, Dieu est intervenu en notre faveur. Si le livre de Ruth est dans la Bible, c'est qu'il nous apprend quelque chose sur Dieu. Et comme d'autres histoires, nous voyons un Dieu qui agit souverainement, librement. C'est finalement lui qui décide. C'est finalement lui qui a le dernier mot. Et en théologie, nous parlons de providence divine. C'est-à-dire que Dieu, pour simplifier un peu les choses, Dieu dirige les circonstances en vue d'accomplir son plan. Dieu dirige les circonstances de notre vie en vue d'accomplir son plan. Et voici par exemple ce que nous lisons dans le livre des Proverbes concernant justement cette providence, cette souveraineté de Dieu. L'homme fait des projets, mais celui qui a le dernier mot, c'est l'Éternel. Vous pouvez penser que tout ce que vous faites est bien, mais c'est l'Éternel qui apprécie vos motivations. Recommande tes œuvres à l'Éternel et tes projets se réaliseront. Et le verset 4, qui est peut-être plus difficile pour nous, l'Éternel a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Il me semble que ces versets montrent très clairement que Dieu est souverain, que c'est lui qui dirige le cours de l'existence. Il fait tout pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Dieu est au contrôle de toutes choses. Mais il reste un mystère pour nous, un mystère insaisissable dans la façon dont Dieu agit. Parce que nous vivons dans un monde déchu, dans un monde de péché. Comment Dieu parvient-il à prendre en compte tout ça, tout le mal qui se fait ici-bas? Pourtant, il faut affirmer que ce qui arrive dans notre monde et ce qui arrive dans notre vie n'est pas le fruit du hasard ou des coïncidences. Ce qui arrive à Naomi et à Ruth ne doit pas être pris avec philosophie, en disant « c'est comme ça, c'est la vie ». Dieu est véritablement le maître des circonstances. Croyons-le, mes amis, rien n'échappe à Dieu. Aucune de nos situations de vie ne lui échappe. Alors que Naomi est enfermée dans sa souffrance, ne voyant pas de perspective d'avenir, Dieu a déjà préparé la suite. Et au-delà du premier chapitre, Dieu manifestera encore sa grâce. Dieu continuera d'intervenir dans la vie de Naomi, dans la vie de Ruth, comme nous le verrons les fois prochaines. Ce n'est pas terminé. Avec cette crise sanitaire, je veux me rappeler souvent que Dieu est bien plus sage que les hommes et qu'il sait très bien ce qu'il fait au milieu de tous les drames. Il est plus sage que nous, même si nous ne comprenons pas tout. Et justement, c'est parce qu'il est plus sage que nous ne comprenons pas. Naomi revient les mains vides, mais ne remarque-t-elle pas qu'elle est revenue à Bethléem accompagnée ? L'attitude de Ruth n'est-elle pas la preuve que Dieu continue de prendre soin de Naomi et qu'elle n'est pas toute seule ? Nous pouvons être certains que rien dans notre vie n'est laissé au hasard. Dieu a un plan bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Un plan qui concerne notre vie personnelle et qui le dépasse en même temps. Dans un film, le scénario peut concerner à la fois la vie d'un ou plusieurs personnages, l'histoire d'une ville, voire l'histoire du monde entier. Et c'est pourtant un même scénario qui concerne toutes ces personnes. Eh bien, de la même manière, le plan de Dieu englobe tout ce qui se passe ici-bas sur terre. Tout, absolument tout. Ce qui se passe ici à Saint-Maur et ce qui se passe de l'autre côté du monde. Et on ne sait pas exactement ce qui se passe. Mais Dieu le sait. Le plan de Dieu englobe tout ce qui se passe ici-bas et pas seulement nos vies. Et la seule chose que nous pouvons faire lorsque nous passons par des circonstances difficiles, encore une fois, c'est de lui faire confiance, d'avoir confiance en sa providence. Ce qu'aucun des personnages ne peut percevoir dans le plan de Dieu, c'est que du fils de Ruth qui naîtra, eh bien de ce fils-là naîtra Isaïe, et d'Isaïe naîtra le futur roi d'Israël, David. Et ça, aucun des personnages de cette histoire ne pouvait le prévoir. Mais Dieu, c'était son plan. Et pour aller plus loin, dans son évangile, Matthieu reprend cette généalogie. Le fils de Ruth, Isaïe, David, pour aboutir à Jésus. Ce que Dieu fait dans cette histoire de Naomi et de Ruth, c'est rien de moins que de préparer la venue du Messie. Voilà l'étendue du plan de Dieu. Et ça dépasse de loin la petite vie de Naomi et de Ruth. Dieu est bon envers nous, en ce qu'il a envoyé son Fils au moment qu'il a fixé, afin de mourir à la croix, à notre place pour nos péchés. Nous l'avons chanté. Et le troisième jour, Dieu l'a ressuscité, déclarant ainsi que le sacrifice de Jésus est suffisant pour que nous puissions être pardonnés. Et nous voyons dans ce premier chapitre de Ruth que les choses sont déjà mises en place pour que de la lignée de Ruth naisse notre Sauveur. Est-ce que vous vous rendez compte de cela ? Est-ce que vous vous rendez compte que peut-être de notre vie, on ne sait pas ce qui se passe après ? Mais le plan de Dieu nous dépasse. Et après avoir entendu tout cela, croyez-vous en la providence de Dieu ? Vous voyez bien que Dieu n'est pas contre nous. Je termine en racontant une histoire tragique, une histoire bouleversante. Une histoire qui illustre ce que signifie croire en un Dieu souverain. En 2001, la force aérienne du Pérou a tiré par erreur sur un avion missionnaire. La force aérienne du Pérou pensait que cet avion transportait de la drogue. Et dans cet avion, il y avait un couple de missionnaires, Jim et Veronica Bowers, avec leurs deux enfants, l'une âgée de 7 mois et l'autre 6 ans. La petite de 7 mois était sur les genoux de sa mère. Parmi les balles qui ont été tirées, une a atteint le dos de Veronica, a traversé son corps et a touché la petite. La mère et la fille n'ont pas survécu. Mais le pilote qui était devant la petite fille n'a pas été touché. Et Jim, son fils et le pilote ont pu s'en sortir. Une semaine plus tard, aux funérailles, Jim Bowers a donné son témoignage où il a remercié Dieu. Il a reconnu que son Dieu était souverain. La balle qui a tué sa femme et sa fille n'avait pas atteint le pilote. Elle s'est arrêtée dans le corps de la petite fille. Et selon les mots de Jim lui-même, c'était une balle souverainement guidée ou souverainement arrêtée. Et ce n'est pas tout. Concernant ceux qui ont tiré sur l'avion, il explique que pour lui, ces gens ont été utilisés par Dieu pour accomplir le plan de Dieu. Et il donne cette comparaison, tout comme les soldats romains ont été utilisés par Dieu pour crucifier le Christ. Je sais que la souveraineté de Dieu n'est pas facile à comprendre, surtout dans les moments les plus dramatiques, comme l'a vécu Jim Bowers. À mon avis, il a pleuré à cause de ce drame. Mais il a trouvé une consolation dans cette vérité. Dieu est souverain et dirige toutes les circonstances de sa vie pour son bien. Même si on a du mal à le croire. Mais c'est là que réside la foi, en un Dieu souverain. Naomi a perdu 3 hommes dans sa vie. Et bien qu'amère, elle est revenue à Bethléem, là où Dieu est intervenu en faveur de son peuple. Ruth a perdu son mari, mais elle a résolument décidé de rester jusqu'au bout avec sa belle-mère et de faire du Dieu d'Israël son Dieu. Il est clair aussi que Dieu est providentiellement à l'œuvre dans cette histoire. Et cet après-midi, le Dieu souverain nous encourage par sa parole à nous tourner vers lui en temps de crise, parce que c'est la meilleure option. Dans nos moments d'épreuve, rappelons-nous que Dieu agira souverainement avec bonté envers celles et ceux qui sont unis à Christ. Et aujourd'hui, c'est encore l'occasion pour toi de te confier en Dieu si tu ne l'as pas fait jusqu'à maintenant. Parce que Dieu n'a pas laissé l'humanité dans son péché. Il est venu en la personne de Jésus pour restaurer ce qui avait été brisé par l'homme pécheur. Il est encore possible de se confier en Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit à propos de Jésus, notre Seigneur, et cela est une consolation pour nous. Car puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, et nous savons que notre Seigneur Jésus a souffert. Nous sommes souvenus de cela encore récemment. Puisqu'il a lui-même été éprouvé dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont éprouvés. Cette parole est certaine. Amen. Je vous invite à un moment de silence, un moment de réponse à la parole de Dieu. Et peut-être que particulièrement en ce moment, vous vivez des moments difficiles, que vous passez par des déserts, que vous ne comprenez pas exactement les circonstances qui vous arrivent. Pourtant, cette histoire de Ruth, de Naomi, nous montre que la meilleure option dans ces temps de crise, c'est de se tourner vers Dieu. notre Père, nous voulons te remercier pour ta parole. Merci encore de nous éclairer sur qui tu es. Et même si nous sommes totalement limités pour vraiment te comprendre, pour vraiment connaître toutes les facettes de ta personne, nous savons au moins que ce que tu nous révèles dans ta parole est la vérité. Nous savons au moins que oui, tu es souverain, que tu agis parfois même en toute discrétion, mais tu es toujours à l'œuvre. Rien ne t'échappe. Et au milieu, parfois des drames, eh bien cette vérité ne change pas. Seigneur, accorde-nous la consolation de savoir que tu es souverain, que rien ne t'échappe, qu'au bout du compte, ton plan se réalisera et que ton plan va dans le sens de notre bien. Ouvre nos yeux, Seigneur, sur notre situation et accorde-nous plus de foi si nous en manquons. Accorde-nous, Seigneur, s'il te plaît, de te faire confiance, quel que soit ce qui peut nous arriver. Parce que nous savons que tu es un Père aimant. Parce que nous savons que tu sais ce qu'il y a de mieux pour nous. Oui, accorde-nous, Seigneur, cette foi à toute épreuve. Et merci, Seigneur, d'être au contrôle de toutes choses. Nous te prions ainsi, au nom de Jésus. Amen.